rmetal.com.
Trêville PM. Politique.
Je n'accepterai aucune entente qui ne soit pas acceptée par les producteurs et les transformateurs laitiers au Québec.
Dire aux agriculteurs, aux agricultrices, aux producteurs, aux transformateurs, Québec solidaire est derrière vous.
On doit envoyer un message très clair à Justin Trudeau. Il faut aucun compromis sur la gestion de l'offre. Si jamais il en fait, il va y avoir un énorme prix politique à payer au Québec.
Je pense que ceux qui ont les priorités à la bonne place sont ici aujourd'hui.
Voici Paul Journet et Catherine Lévesque.
Alors, vous avez entendu les quatre chefs des quatre principaux partis politiques au Québec. Manon Massé, M. Couillard, M. Legault, M. Lisée, pour discuter de cette question de la gestion de l'offre, des négociations à Washington et en particulier de cette fameuse entrevue que Donald Trump a donnée. Paul Journet, éditorialiste à la presse. Bonjour Paul.
Salut Bernard.
Et Catherine Lévesque, journaliste au Huffington Post. Bonjour Catherine.
Bonjour Bernard.
Parle-nous Catherine de cette entrevue donc qui est rapportée par le Toronto Star.
Bon, ben depuis une heure, j'essaie de me calmer parce que vraiment, je suis un peu hors de moi. En fait, finalement, on a eu la confirmation là, que les Américains ne négocient pas de bonne foi dans l'ALENA et c'est pour ça que les négociations aujourd'hui semblent bloquées. Ce qui est arrivé, je vous résume rapidement, le Toronto Star a obtenu une entrevue de Bloomberg avec des extraits off the record avec le président Donald Trump. Dans le jargon des journalistes, off the record signifie que tu n'as pas le droit de publier ça du tout. Par contre, vu que c'est le Toronto Star qui l'a publié, ben ils n'avaient pas fait cette promesse-là, alors ils ont publié tout de suite.
En fait, tu peux le publier, mais sans l'attribuer.
Oui, techniquement.
Voilà, OK.
Mais eux ont décidé, parce que vraiment, c'est trop énorme, finalement, pour être passé sous silence. Dans cette entrevue-là, on apprend notamment que Donald Trump dit qu'il n'a aucune intention de faire des concessions dans l'ALENA. Il mentionne aux journalistes à qui il a parlé, publiez pas ça parce que les Canadiens vont être tellement insultés qu'ils ne parviendront pas à un accord. Alors, dans le fond, il dit aussi que la partie canadienne n'était pas tuable, mais qu'à chaque fois qu'elle arrivait avec des contre-arguments, par exemple, à la partie américaine, bien là, il montrait une photo d'une Chevrolet Impala, puis il leur brandissait la menace. Écoutez, là, si vous n'êtes pas fin, ben nous, on va
imposer les voitures fabriquées au Canada.
Ah, c'est ça. Alors, dans ce temps-là, lui se vante, il dit, ben dans ce temps-là, les Canadiens se calment le pompon un peu, et on arrive finalement à faire ça avec eux. Alors, voilà, ça peut expliquer pourquoi Mme Freeland, aujourd'hui, n'était peut-être pas aussi optimiste qu'hier. Hier, elle avait rencontré M. Lighthizer à 4 reprises. Elle était relativement de bonne humeur, était plutôt optimiste.
Oui, là, puis hier soir, moi encore, les gens auprès de la négo me disaient, il y a entre 50 et 70 % des chances que ça se règle.
Absolument, mais là, ce matin, c'était pas du tout la même humeur non plus.
Paul Journet.
Ben, comme d'habitude, c'est la stratégie du chaos avec Donald Trump. Il sème le bordel dans les faits. On ne sait plus quoi croire. Bernard, c'est comme le paradoxe du menteur. Je ne sais pas si tu connais, mais quand le menteur ment, est-ce qu'on sait s'il dit la vérité quand il dit qu'il ment? On ne sait plus quoi croire avec Donald Trump. Moi, il y a un bout que j'ai trouvé intéressant dans l'article du Toronto Star où on disait que, écoutez, les négociateurs canadiens y arrivent. C'est comme s'il avait les genoux qui tremblaient tellement qu'il arrive par terre puis il supplie Donald Trump, les mains jointes, s'il vous plaît, faites-nous pas trop mal. Ça, c'est classique, M. Trump essaie toujours de montrer que les autres sont en position de faiblesse.
Il veut toujours humilier.
Un grand négociateur puissant. Puis, est-ce qu'il est en train de se mettre en valeur? Est-ce qu'il dit la vérité? Bon, c'est vrai que les États-Unis ont le gros bout du bâton. C'est le rapport de force joue pour eux. Mais dans quelle mesure est-ce que tout ça est vrai ou non? Je sais pas. Chose certaine, écoutez, on se doutait que les États-Unis ne négociaient pas tout à fait de bonne foi. Mais là, si vous êtes Mme Freeland, là, c'est complètement déstabilisant. C'est complètement méprisant. Vous regardez ça, puis vous voyez qu'il est en train de rire dans votre face, puis vous essayez de vous battre, mais vous avez pas, vous battez contre un géant, puis vous n'êtes pas pris au sérieux, puis vous savez pas, vous avez combien de temps pour conclure une entente ou non. Écoutez, là, c'est le bordel comme d'habitude.
Et là, ce qu'on comprend dans ce qui est rapporté par le Toronto Star, puis là, je refais une parenthèse, je veux juste que ça soit bien clair. C'est un journaliste ou une journaliste de Bloomberg qui rencontre Trump, il dit aux journalistes de Bloomberg, ça c'est off the record. Donc Bloomberg n'a pas rapporté ce qu'a dit Trump. Mais le Toronto Star a obtenu, on ne sait pas trop comment, la transcription, ou en tout cas les déclarations, le contenu des déclarations de Trump. Et le Toronto Star, dans le fond, a considéré que le off the record de Bloomberg n'était pas, ne l'assujettissait pas Hein? Le Toronto Star a dit, garde, c'est pas nous qui avons donné notre engagement. Le off the record, donc, ne nous lie pas. Et c'est trop important. Et donc, on publie ça.
Ça, c'est surtout, comme tu l'as dit, c'est parce que c'est trop important. Écoute, c'est, on voit que t'as un président américain qui joue des petites game, comme d'habitude, mais on parle de millions, sinon de milliards de dollars, des emplois, la vitalité d'un secteur économique qui est crucial. Y a-t-il quelque chose de plus important pour un peuple que d'être capable de se nourrir lui-même, comme le dit ce matin l'UPA en conférence de presse?
Alors, Luc, justement, parlons-en un petit peu de cette conférence de presse. Paul, dis-je bien, c'est quand même quelque chose de voir les quatre partis politiques former un front commun.
C'est sans précédent parce que le front commun, il survient en période électorale. Donc, je pense qu'on peut parler de trêve électorale où tous les partis mettent leurs différends de côté pour envoyer ensemble un message fort. Et c'est un message qui est politique parce qu'il faut le rappeler, les négociations, ils se déroulent bien loin d'Ottawa et du Québec. Le Québec n'a pas son mot à dire de façon formelle. On n'a pas besoin de la signature du Québec. Le Québec n'a pas de droit de veto. Par contre, il a évidemment une influence politique. Et pour que cette influence-là soit grande, ben, tu veux que tous les politiciens parlent d'une même voix, que ce ne soit pas les libéraux ou la CAQ ou Québec solidaire ou le Parti québécois, mais que ce soit le Québec, l'Assemblée nationale, les partis en campagne électorale. Et c'est à ça qu'on a assisté ce matin, à l'initiative, il faut le dire, de Jean-François Lisée. C'est lui qui avait lancé l'idée.
Oui, voilà, exactement. Et là, donc, Lisée est là.
Oui.
Couillard, qui avait décidé de ne pas y être, finalement change d'idée hier en soirée, décide d'être là ce matin. Manon Massé de Québec solidaire y est également. Et François Legault, qui, ayant vu Couillard ne s'y rendait pas, décide de continuer avec sa tournée électorale. Il est au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, il apprend hier que Couillard, finalement, va y être. Et il décide de continuer, finalement, avec sa tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean et fait un appel conférence ce matin pour marquer sa solidarité et pour dire, dans le fond, je suis avec le Front commun, les quatre, on est ensemble, les quatre chefs. Toi, est-ce que tu trouves à redire?
Ben, je regardais la conférence de presse ce matin à la télévision, puis autant à RDI qu'à LCN, t'avais l'image principale. C'était la conférence de presse avec les trois chefs et la députée caquiste, et t'avais en mortaise, en haut à droite de l'écran, François Legault, avec pas de son, en train de parler d'un autre sujet. Donc, c'est certain que ça fait mal à la CAQ, parce que ce que tu voyais écrit en bas de l'écran, c'était les chefs du PQ, du PLQ, de QS et une députée de la CAQ. Ça fait mal parce que les libéraux, depuis environ une semaine, essaient de semer un doute dans la tête des gens en région. Puis, il n'a pas mal, là, c'est à peu près le tiers des circonscriptions du Québec. Et donc, les libéraux essaient de semer un doute en disant « Mais la CAQ, je suis pas sûr qu'ils vont défendre la gestion de l'offre aussi fort que les autres. » Mais il faut le préciser, être très clair là-dessus, la CAQ le dit sans aucune ambiguïté.
Oui, puis
ils défendent la gestion de l'offre. C'est des petites tactiques. Est-ce que ça va marquer des points?
T'as pas trouvé ça cheap? Moi, je vais te dire franchement, là, sur un sujet comme celui-là, où, dans le fond, t'as Lisée qui dit, hey, garde, là, on va mettre de côté, là, nos petites bisbilles politiques, là, nos petites games. Puis, dans le fond, les libéraux, si c'est vrai, si c'est ça qui s'est passé, puis il y a pas mal de gens qui pensent que c'était calculé, ben ont tendu un piège en disant c'est Anglade qui va y aller, puis quelques heures plus tard, change d'idée en sachant que Legault a déjà annoncé, rendu public par communiquer son itinéraire du lendemain. Écoute, tu sais, moi, franchement, là,
ce qui est important pour moi, c'est le fond du dossier. La position des chefs et celle de François Legault est aussi claire que celle des autres. Les libéraux, ça me semble très clair, ont tendu un piège. Ça, t'as 100% raison là-dessus. Mais François Legault n'était pas obligé de tomber dedans. C'est un piège que d'être le seul chef politique qui n'est pas présent, ben revenons en arrière de 24 heures. Il y a 24 heures, tu savais qu'il allait avoir les chefs de Québec solidaire et du Parti québécois, puis qu'il n'y aurait pas le chef des libéraux. Donc, si c'est un piège, puis t'es la CAQ, ben pourquoi tu dis pas, justement, moi, je vais y aller, le seul chef qui n'est pas là, c'est Philippe Couillard, puis si jamais M. Couillard finit par venir, ben il est venu parce que moi, François Legault, j'ai été là. C'est jamais efficace en termes de communication de te montrer comme étant une victime. Puis, est-ce que les libéraux répondent à ça? Ils vont dire, ben écoutez, nous, si François François Legault, sa décision de venir ou non à la conférence de presse de l'UPA, elle dépendait non pas de l'enjeu lui-même de la gestion de l'offre, mmh. mais de la présence ou non de Philippe Couillard, ben c'est pas notre problème. Donc, c'est sûr qu'il y avait des petites tactiques des libéraux, mais François Legault avait pas, était pas obligé de tomber à pieds joints dedans.
C'est bon.
Mais encore une fois, j'insiste là-dessus. Ce qui est important, je pense, pour les Québécois, c'est pas qui était à la TV en direct des salons de Longueuil de l'UPA, c'est qu'est-ce que les partis vont faire s'ils
D'accord.
sont élus. Là, soyons
D'accord,
clairs.
Paul. Catherine?
Moi, j'ajouterais juste ceci. Il faut dire quand même que M. Couillard a annoncé qu'il venait à 21h hier soir. Donc, c'est quand même assez, c'était quand même assez tard, là. C'était assez à la dernière minute. Et puis, si on regarde l'agenda de M. Legault aujourd'hui, ben, on peut pas dire qu'il chôme, là. Il est occupé à peu près il partait à 6h ce matin et puis il finit sa journée à 22h ce soir. Donc, c'est sûr que t'as pas beaucoup de marge de manœuvre dans ce temps-là quand t'as tellement d'événements organisés dans la journée. Puis, il est quand même au Saguenay, là. Il
n'est
pas proche de Longueuil non plus. Mm. Alors, vraiment, je pense que la CAQ a décidé que c'était trop compliqué, finalement, là, de tout bousculer l'horaire pour cette conférence
Puis
de presse.
Peut-être qu'ils ont fait le calcul que la vidéoconférence, la position forte qu'ils ont prise, fait la job sur le fond et que leur présence dans des comtés qui ne sont pas caquistes présentement, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a aucun comté caquiste, c'est des comtés soit libéraux, soit péquistes. Peut-être que ils se disent, le 1er octobre prochain, si jamais on va chercher une coupe de comté dans ces régions-là, ben ce sera parce que les gens se seront dit, ben Legault a nous a pas laissé tomber, il a pas reviré de bord.
Il y a du monde à Saguenay qui était content de voir François Legault, ça c'est certain, y compris des producteurs.
Voilà,
mais oui, il y a
ça.
Beaucoup de producteurs laitiers là-bas. Là,
tout à fait, autour du lac Saint-Jean, c'est des très belles terres agricoles. On va s'arrêter, puis au retour, on continue, parce que là, il faut parler...
Kinder Morgan, Trans Mountain.
Trans Mountain. Et écoute, on a mis 4,5 milliards là-dedans. Puis là, le tribunal qui décide de geler le projet. Ah, c'est une grosse affaire. On en parle tout de suite après la pause. De retour donc avec notre analyse politique quotidienne, Paul Journet de La Presse et Catherine Lévesque aujourd'hui du Huffington Post. Catherine, parle-nous de Trans Mountain, de ce fameux pipeline.
Exactement, parce que c'est pas fini. On a su hier que finalement le décret était annulé, que le gouvernement fédéral n'avait pas fait assez pour consulter les Premières Nations et que l'analyse là, de l'Office national de l'énergie était complètement bâclée. Eh bien, la première ministre de l'Alberta, Rachel Notley, elle a réagi très fortement. Je pense qu'on a une clip qu'on peut entendre là, de sa part.
Successful or successive federal governments created the mess we find ourselves in. It was broken in Ottawa, and now Ottawa needs to fix it. This is a threat to Canadian sovereignty and Canadian economic security. It is a crisis.
Alors, elle dit que c'est une crise. Elle dit que c'est la souveraineté du Canada qui est en cause.
Des mots très durs. Là,
puis elle dit que c'est au gouvernement du Canada de régler le problème parce que c'est lui qui l'a créé in the first place.
Exactement. Donc, elle demande au gouvernement fédéral de faire quelque chose. Elle urge le gouvernement à faire appel de cette décision tout d'abord, mais on le sait, si ça va jusqu'en appel, ben ça peut encore prendre là, de 18 mois à 2 ans avant d'avoir une décision finale. Elle urge aussi M. Trudeau à convoquer une session d'urgence au Parlement pour discuter de la question qui, on le sait, fait très, très mal là, à l'Ouest canadien.
Oui. Moi, Paul, je me tourne vers toi. Moi, j'ai parlé avec quelqu'un hier soir assez longuement à Ottawa, puis... Il me dit, écoute, c'est pas la catastrophe que vous dépeignez, les journalistes, là. Il va lire la décision, qui me dit, ouais. Tu vas voir, là. Dans le fond, pour ce qui est des discussions avec les Autochtones, on n'en a pas fait assez, c'est vrai. Alors, on peut faire un bout, mais c'est pas nécessaire de tout reprendre le processus. Et même chose avec l'analyse de l'Office national de l'énergie. Il faut rajouter la circulation maritime et l'impact que ça aura sur les orques. Et le reste tient. Donc, ce qu'il me disait, en gros, c'est que d'ici décembre, là, on pourra avoir réglé les problèmes identifiés par la Cour, puis on retourne au point où on était hier et on commence la construction au printemps.
Écoute, il y a deux choses là-dedans. Il y a l'environnement et les Autochtones. Pour l'environnement, en effet, quand tu lis le jugement, on ne demande pas à l'Office national de l'énergie de refaire tout le travail. On lui demande seulement de s'intéresser à la question des épaulards, mm-hmm. une espèce menacée. Donc, ça serait un aspect assez pointu qu'il faudrait faire dans l'évaluation environnementale. C'est ça peut se faire là, dans des délais assez raisonnables. L'autre aspect, par contre, il faut dire si ça n'a pas été fait, c'est parce que l'ONE avait été avait des évaluations moins exigeantes sous l'époque de M. Harper. Et dans sa nouvelle évaluation, l'ONE, ben, elle va tenir compte.
L'ONE, Office national de l'énergie.
Exact, l'Office national de l'énergie va tenir compte d'une décision récente du gouvernement Trudeau pour mieux protéger les océans. Donc, si tu estimes que le gouvernement libéral a déjà fait quelque chose ailleurs pour protéger les épaulards, ben, peut-être que ça va modifier ton évaluation. Ça, peut-être que c'est surmontable comme obstacle. L'autre, les Autochtones, l'échéancier de décembre, ben, c'est assez téméraire parce que qui peut dire comment vont aller les négociations? La décision, ce qu'elle dit, c'est que oui, le gouvernement Trudeau a parlé, a écouté, mais ça sert à rien d'écouter si tu fais rien. T'sais, si tu t'assois devant quelqu'un avec ton calepin de notes, tu l'écoutes, puis tu dis puis tu fais rien, c'est pas ça une consultation. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui aient un pouvoir de décision, qui s'assoient avec les Autochtones et qui puissent leur offrir quelque chose. C'est ça qui reste à faire. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend s'ils s'entendent ou non, puis ça, on le sait pas, mais si on est surpris puis ça avance rapidement, ben peut-être que l'impasse va être dénouée dans les prochains mois. C'est pas impossible, mais c'est spéculatif.
Mais on s'entend là, que pour politiquement, pour Justin Trudeau, ce qui s'est passé hier, écoute, c'est catastrophique là, parce que mettons que pour le mieux, là, ou non, mettons qu'au mieux, quelque part en décembre, là, ils réussissent à trouver une façon heureuse de conclure le dialogue avec les Premières Nations, et puis ils réussissent à mettre à jour le fameux rapport de l'Office national de l'énergie. Mm. Pendant tout l'automne, il va subir les attaques des conservateurs, des néo-démocrates. Pour le NPD, pour Singh, qui va se présenter dans une élection partielle dans Burnaby, en Colombie. Pour lui, écoute, c'est un cadeau inouï, là. Inouï pour Singh, là. Je veux dire, son élection dans la partielle dans Burnaby, il y avait déjà des bonnes chances. Ben là, moi, je pense que ses chances deviennent excellentes.
C'est ça, parce que le pipeline, je pense qu'il faut le préciser, va terminer à Burnaby. Donc, oui. les gens là-bas sont absolument contre. Et Jagmeet Singh a pris une position claire en disant « Je suis contre le pipeline », quitte à rendre Rachel Notley très, très furieuse. Je pense aussi que c'est la preuve, finalement, que la maxime de M. Trudeau, là, qu'il répète depuis son élection, l'environnement et l'économie vont de pair. Eh bien, c'est pas aussi simple. Je pense aussi que c'est la preuve aussi que l'espèce de monnaie d'échange qui a essayé de négocier avec Rachel Notley en disant, écoutez, on va construire votre pipeline, mais en contrepartie, vous allez vous rallier au plan national de lutte contre les changements climatiques.
Et accepter une taxe sur le carbone.
Exactement.
C'est là-dessus qu'elle a tiré la plug, là. Oui. Hier, elle a dit, OK, ça marche plus le pipeline, ben moi, je retire mon appui. Hein, n'est-ce pas, Paul?
Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que, bon, l'Alberta a déjà un système de tarification du carbone qui ressemble pas mal à celui que le fédéral veut imposer aux provinces qui en ont pas. Je comprends que si l'oléoduc continue d'aller nulle part, Rachel Notley a dit, moi, l'Alberta, je me retire du système de tarification du carbone, mais le fédéral va tout simplement l'imposer. Donc là, mais ce qui va se passer, c'est que l'Alberta, comme la Saskatchewan, comme l'Ontario, vont contester le droit d'Ottawa d'imposer un système de tarification du carbone. Mais ça va se retrouver dans les tribunaux. Puis les juristes qui ont analysé ça trouvent que l'argumentaire d'Ottawa est plus fort que celui des provinces. Mmh. Puis même si Rachel Notley, elle en veut pas, ben, elle risque quand même de n'avoir un.
Oui, mais moi, là,
Elle est en élection, c'est ça, printemps prochain, contre les conservateurs qui sont encore plus pro-pétrole puis anti-tarification du carbone qu'elle.
Moi, je vais vous dire franchement, je pense qu'hier, Rachel Notley a perdu son élection. Déjà que ça allait pas bien contre le conservateur Kenney, là. Moi, je pense qu'hier, là, c'est comme les carottes sont cuites. Ça, c'est, on verra bien. On verra bien. Mais moi, je vais te dire, je veux vous entendre, il me reste une minute, là. Je vais te dire, Paul Journet, notre petit investissement, là, de 4,5 milliards dans le pipeline, là, on a quand même payé, quoi, mettons 20% comme Québécois, là. Fait que c'est pas loin d'un milliard qu'on a mis là-dedans, nous autres, là.
Oui.
Va te dire, si on était coté à la bourse, là. Si on était coté à la bourse, mon cher Journet m'a dit que l'action aurait planté hier après-midi, hein?
Ben, ce qui est important, c'est de se souvenir quand est-ce qu'on a acheté ça. On l'a acheté en mai et à l'époque, il y avait un échéancier, en fait, un fusil mis sur la table des Canadiens par la compagnie qui disait, d'ici le 31 mai, si l'oléoduc n'a pas le feu vert, on tire la plug. Et c'est dans ces conditions-là que le fédéral a acheté l'oléoduc sans savoir décision de la Cour allait être favorable ou pas favorable. Fait que les actionnaires, ils sont bien contents.
Oui. Qu'est-ce que tu en penses, Catherine, rapidement, en 20 secondes?
Oui, ben je veux dire, je pense qu'au final, il y a personne de content là-dedans. Je veux dire, la Colombie-Britannique est heureuse pour l'instant parce que ça va pas de l'avant, mais M. Trudeau veut quand même aller de l'avant avec le pipeline. L'Alberta et les autres provinces,
l'industrie, l'industrie aussi, sont vraiment furieux.
Ils sont furieuses parce qu'il y aura pas beaucoup d'investissements et finalement, on a tous payé pour ça.
Je te remercie, Catherine Lévesque du Huffington Post, Paul Journet de la presse. Merci à vous deux.
Merci.